Le journal vous est présenté par Clotilde Ravel.
Bonsoir à toutes et à tous. Taux de participation timide pour le deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali, qui se déroule en ce moment même. En cause, un scrutin sans grand suspense. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est pratiquement sûr de l'emporter face à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Les déplacements pour aller voter sont également compliqués par la météo, nous dira notre envoyé spécial à Bamako, Marie Matigo. Cela faisait 20 ans que la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan se disputaient la mer Caspienne et surtout ses ressources. Un accord a finalement été trouvé par les 5 pays. Explication dans cette édition de Laura Dulieu. La condamnation du géant de l'agrochimie Monsanto par la justice américaine peut-elle accélérer la fin du glyphosate en France? Hier, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a salué le début d'une guerre contre les pesticides. Vive réaction des députés de l'opposition qui estiment que le gouvernement ne s'est pas montré très déterminé au moment d'avancer l'interdiction du produit. Dans ce journal également, on parlera de la nuit des étoiles filantes, c'est ce soir. Mais dans les villes, les lumières artificielles rendent presque impossible l'étude du ciel. Nous irons à Villers-Semeuse dans les Ardennes, une commune qui a choisi de réduire son éclairage public pour laisser briller les étoiles. 8 millions d'électeurs appelés aux urnes au Mali aujourd'hui. Le scrutin oppose Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant et ultra favori, au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Journée d'élection sous haute tension, dans les craintes de violence mais aussi de fraude. Nous sommes en direct de Bamako avec notre correspondante Marie Matigo. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie, il est 16h à Bamako, les bureaux de vote ferment dans moins de 2h. Pour l'instant, comment se déroule le scrutin ?
Alors ici à Bamako, le vote se déroule calmement. Les forces de sécurité sont présentes en nombre pour filtrer les électeurs à l'entrée de chaque centre de vote. Mais la participation s'annonce timide, hein, selon les autorités. Elle était de seulement 42% au premier tour et là on s'attend à moins. Car ce duel entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui est ultra favori, et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, eh bien, ne passionne pas trop les foules ici. Les déplacements sont aussi compliqués par la météo. Il a beaucoup plu aujourd'hui à Bamako et ces derniers jours dans le nord, où il y a même eu des inondations à Guélok. En revanche, comme au premier tour, des nouvelles plutôt inquiétantes commencent à nous parvenir, notamment du centre du Mali, car malgré le déploiement de 36 000 membres des forces de défense et de sécurité, l'État n'est pas présent partout. On rapporte ainsi que des électeurs ont été intimidés vers Diabali ou vers Sang, des urnes ont été volées et détruites vers Diré, et certains bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir dans le cercle de Douenza.
Et justement, l'un des enjeux de cette élection présidentielle, ce sont les soupçons de fraude. Depuis le début de la campagne électorale, l'opposition n'a pas cessé de les dénoncer.
Et la nuit dernière encore, hein, le camp de Soumaïla Cissé a affirmé avoir obtenu des carnets de bulletins qui sont censés être sous-scellés jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote. L'opposition a dénoncé des bourrages d'urnes, des achats de voix ou encore une utilisation massive et illégale des procurations. En réponse, le gouvernement a donné des garanties. Dans chaque bureau de vote, il y a un assesseur de la majorité et un de l'opposition. Les deux camps, tout comme les différentes missions d'observation électorale, participent tous au dépouillement ainsi qu'à la centralisation des résultats. Pour le premier tour, les autorités ont même fini par publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Des résultats qui montraient quelques chiffres étonnants dans certaines zones du nord et du centre, pourtant marquées par l'insécurité. Eh bien, le taux de participation était parfois deux fois supérieur à la moyenne nationale. Et c'est dans ces zones que le président sortant a obtenu ses meilleurs scores.
Merci Marie Matigo en direct de Bamako pour France Culture. Benjamin Netanyahou exige un cessez-le-feu total du Hamas à Gaza. Première déclaration du Premier ministre israélien depuis l'escalade de violence de ces derniers jours entre Israël et le Hamas. Une trêve avait pourtant été décidée jeudi, sans confirmation officielle des deux camps. Les violences à la frontière entre Gaza et Israël durent depuis le 30 mars dernier. En 4 mois, au moins 168 Gazaouis et un soldat israélien ont été tués. La Jordanie frappée ces dernières heures par des attaques terroristes. Une explosion dans une banlieue de Amman, la capitale, où se tenait un festival de musique. Puis des échanges de tirs dans un immeuble situé à 30 km de là. Au moins 7 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. La Jordanie, toute proche de la Syrie et de l'Irak, est parfois visée par des menaces terroristes. Mais la plupart du temps, la police parvient à déjouer les attentats. Correspondance à Amman de Jérôme Borusewski.
La police a rapidement découvert la cache des prétendus terroristes après l'explosion qui a tué vendredi un policier en faction à proximité d'un festival de musique. Elle est donc intervenue hier à Salt, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Les suspects s'étaient retranchés dans un immeuble. Ils ont d'abord refusé de se rendre, puis ils ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre. Plusieurs explosions ont alors retenti. L'immeuble s'est écroulé. Les corps de trois suspects ont été retrouvés dans les décombres. La police a par ailleurs arrêté cinq personnes. Les attaques terroristes sont plutôt rares en Jordanie. La dernière date de décembre 2016. 10 suspects proches de l'organisation État islamique avaient alors été arrêtés et l'on attend d'ailleurs le verdict dans leur procès d'un jour à l'autre. Souvent, la police parvient à déjouer les plans des cellules terroristes. Les services de renseignement sont très développés en Jordanie. Les forces de l'ordre sont très présentes et visibles dans les villes et sur les axes routiers. En novembre dernier, la police a arrêté bien en amont 17 personnes qui préparaient des attaques dans des centres commerciaux de la capitale et contre des personnalités religieuses modérées. Elle avait également saisi à cette occasion des armes et des explosifs. La police n'a révélé l'information que 2 mois plus tard quand elle était parfaitement certaine d'avoir arrêté tous les membres de cette cellule terroriste.
Jérôme Boruzewski à Amman pour France Culture. Un accord vient d'être signé et il concerne la mer Caspienne. Ce grand lac d'eau salée, la plus grande mer fermée sur Terre, elle était sujet de tensions depuis des années. Laura Dulieu, bonsoir.
Bonsoir.
Les 5 pays riverains de la mer Caspienne ont finalement réussi à s'entendre.
Oui, cela faisait 20 ans que la Russie, l'Iran, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan se disputaient cette enclave d'eau salée. La mer Caspienne était tout simplement un vide juridique et ce depuis la dissolution de l'Union soviétique qui englobait à l'époque tous les pays en question à part l'Iran. Le sommet d'aujourd'hui se déroule à Aktau, au Kazakhstan. C'est le 5e du genre depuis 2002, sans compter les dizaines de réunions, plus de 50, qui se sont tenues depuis la fin de l'URSS, tout ça pour enfin se partager les ressources de la mer Caspienne.
Mais justement, Laura Dulieu, pourquoi cette mer attire autant les convoitises?
Pour plusieurs raisons. D'abord, les hydrocarbures. L'endroit en est rempli. On estime que près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel se trouvent dans ces profondeurs. Autre objet de convoitise, le caviar. En effet, la Caspienne abrite la plus grande population au monde de grands esturgeons beluga, dont les œufs donnent le précieux caviar. Concrètement, l'accord signé tout à l'heure préserve la plus grande partie de la mer en tant que zone commune, mais ils partagent entre les 5 pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Des quotas de pêche pour chaque pays sont instaurés ou encore l'interdiction de toute présence militaire d'un pays tiers sur la Caspienne. La mer Caspienne ne sera donc ni un lac ni une mer. La Russie parle de statut légal spécial, un statut qui ne réglera pas toutes les disputes mais qui devrait au moins apaiser les tensions dans la région.
Merci Laura Dulieu. La Birmanie demande au Bangladesh d'arrêter de fournir de l'aide humanitaire à 6000 Rohingyas actuellement bloqués dans un camp à la frontière entre les deux pays. La Birmanie qui propose d'organiser le ravitaillement de ces personnes, mais les réfugiés craignent que cette aide ne soit pas régulière. Depuis l'année dernière, cette minorité musulmane fuit les exactions et la violence de l'armée birmane et se réfugie notamment au Bangladesh. Le Bangladesh où cette semaine, des pluies diluviennes se sont abattues sur les camps de fortune des réfugiés. Une personne est morte dans ces inondations. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a décidé de déplacer près de 50 000 réfugiés. Les précisions de son porte-parole, William Spindler.
Les camps de réfugiés ont largement résisté aux tempêtes, mais pour raison de précaution, on a décidé de transférer vers des zones plus sûres quelques 41 000 personnes à cause de le risque élevé des glissements de terre et d'inondations. Il y avait un décès dans les camps de réfugiés à cause des intempéries, mais on a évité vraiment des incidents mortels grâce à l'action rapide qu'on a prise.
Est-ce que la situation globale des réfugiés Rohingyas se stabilise, s'améliore? Est-ce que quelques-uns repartent vers la Birmanie?
Il y a eu quelques départs, mais très limités, parce que la situation à l'intérieur de la Birmanie n'est pas conducive. 11 mois après le début de la crise, la réponse humanitaire au Bangladesh demeure axée sur la satisfaction des besoins humanitaires plus urgents.
Est-ce qu'il y a encore des Rohingyas qui quittent la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh?
Oui, il y a toujours des mouvements de personnes qui quittent la Birmanie pour trouver des refuges au Bangladesh. Le flux est beaucoup moins important, mais ça continue toujours.
Le porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, interrogé par Nadine Epstein. Nous sommes au début d'une guerre contre les pesticides, a déclaré Nicolas Hulot, après la condamnation hier du géant de l'agrochimie Monsanto. Monsanto qui devra payer près de 290 millions de dollars de dommages et intérêts à un jardinier pour avoir notamment caché la dangerosité de son désherbant vedette, le Roundup, dont le principe actif est le glyphosate. Et la prise de position de Nicolas Hulot sonne faux, dénonce l'opposition, car selon elle, le gouvernement français n'a pas été très déterminé au moment d'avancer l'interdiction du glyphosate, Laurence Perron.
Si on refait le match, il y avait parmi les engagements d'Emmanuel Macron un meilleur encadrement des lobbies. La loi confiance dans la vie politique ne l'a pas acté. L'interdiction encore du glyphosate d'ici à 2021, il s'est trouvé 63 députés pour plus de la moitié en marche pour refuser un amendement qui devait l'inscrire dans la loi. Éric Coquerel, député France Insoumise, félicite Nicolas Hulot.
Je ne sais pas quelles conséquences il va tirer de cette déclaration très offensive. Moi, je ne vois pas comment il fait pour rester dans ce gouvernement et au sein de cette majorité.
Yannick Jadot, chef de file d'Europe Écologie Les Verts pour les Européennes, s'étonne lui de l'écart entre les mots et les actes du ministre de l'Écologie.
Les batailles, il faut les mener. Il faut les mener à l'Assemblée. Il n'y était pas, c'est Stéphane Travert, pour empêcher l'interdiction du glyphosate. Il faut les mener au niveau européen. La France ne l'a pas mené. Moi, j'ai arrêté de m'interroger sur les états d'âme de Nicolas Hulot. Lui-même constate que la justice américaine fait beaucoup mieux que ce gouvernement. Aujourd'hui, il va falloir continuer à se battre pour interdire cette saloperie qu'est le glyphosate.
Du côté de Matignon, on minimise. Nicolas Hulot ne s'en prenait pas aux députés de la majorité, dit-on, ni à son collègue de l'agriculture, mais aux sénateurs qui, en juin, ont détricoté dans le projet de loi alimentation une mesure visant à séparer la vente et le conseil en matière de pesticides, dont acte.
Le syndicat des pilotes d'Air France prête à 15 jours de grève. Si le futur PDG de la compagnie ne reprend pas les négociations salariales à la rentrée, après avoir consenti au gel des grilles salariales pendant 6 ans, l'intersyndicale réclame une augmentation de 5,1% des salaires du personnel en 2018. La compagnie, sans PDG depuis le mois de mai, après la démission de Jean-Marc Janaillac, doit nommer un remplaçant d'ici début septembre. Elle datait de la Seconde Guerre mondiale et pesait environ 220 kilos. Une bombe anglaise retrouvée fin juin à Rouen a été neutralisée aujourd'hui. L'engin explosif avait été découvert dans le cadre de travaux réalisés dans le quartier. Il sera détruit dans les prochains jours. Ce soir, dans le ciel, vous pourrez admirer une à deux étoiles filantes par minute. La traditionnelle pluie d'étoiles filantes aux nuits des Perséides sera à son apogée cette nuit. Mais pour pouvoir les observer, encore faut-il que les conditions soient réunies. Difficile avec les nombreuses lumières qui éclairent nos centres-villes la nuit. Pour lutter contre la pollution lumineuse, certaines villes choisissent de réduire leurs éclairages publics. Tous les 4 ans, l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne délivre un label, le label Villes et villages étoilés, à ses communes. Exemple à Villers-Semeuse dans les Ardennes, Valentin Denré.
Villers-Semeuse a obtenu sa première étoile du label en éteignant ses éclairages la nuit, une initiative des élus et du maire Jérémy Dupuis.
C'est surtout une volonté politique pour faire un geste par rapport au développement durable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mais voilà, c'est une nécessité et c'est bien d'en parler, mais il faut pouvoir agir et il ne faut pas se cacher. Il y a aussi un volet d'économie d'énergie, puisque ça permet à la commune de gagner un petit peu d'argent.
La ville a pu économiser 19 000 euros cette année, près du tiers du budget dédié à l'éclairage public. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité, certains habitants se sont plaints. Nicolas Bécard, conseiller municipal délégué à l'urbanisme.
S'ils avaient peur qu'il y ait plus de cambriolages la nuit, il apparaît plutôt que dans l'époque actuelle, les cambriolages ont plutôt lieu malheureusement la journée. Après quelques explications, les gens sont rassurés et nous, notre retour d'expérience fait qu'au bout d'un an, on n'a pas plus de dégradation au sein de la commune de Villers-Semeuse, ce qui est rassurant aussi pour la population.
Pour conserver leur étoile ou même en obtenir d'autres, l'association qui délivre le label demande des efforts constants aux villes. Le maire Jérémy Dupuis y a déjà réfléchi.
Ça peut être aussi intéressant quand vous avez des parcs ou certaines rues qui pourraient simplement s'ouvrir pour les piétons en termes d'éclairage public au niveau d'un capteur et qui s'éteignent, j'allais dire, aussitôt le passage. C'est-à-dire qu'on éclaire en préventif et on éteint juste derrière.
En 2018, 11 communes ardennaises ont obtenu un label « ville ou village étoilé ». La Marne fait plutôt figure de mauvais élève sans aucune commune labellisée.
Dans le ciel, ce soir, des étoiles, mais aussi des éclairs. Météo France étend sa vigilance orange aux orages à 5 nouveaux départements de la vallée du Rhône. Prudence si vous habitez dans le Gard, l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Des orages donc à prévoir cette nuit jusqu'à demain. demain midi. Au total, 15 départements sont en alerte, notamment l'Aveyron, le Tarn et les Pyrénées-Atlantiques. Demain, un temps instable sur la majeure partie du pays, notamment sur le sud-est. De fortes rafales de vent et de la grêle sont à prévoir en région PACA et Rhône-Alpes. Entre la Franche-Comté et les frontières allemandes, des orages dès le matin. Ailleurs, un ciel menaçant, mais les averses seront plus localisées. Le matin, des températures entre 14 et 19 degrés, jusqu'à 20 et 23 degrés dans le sud-est et en Corse.